Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute!
Donc être transformé, c'est pas du développement personnel, même si c'est pas mal, hein, le développement personnel. On a tous besoin à un moment donné de petites phrases choc, coach, comment aller mieux dans sa vie. Mais c'est pas du développement personnel. Ou est-ce que ce serait comment être transformé en 10 points, donc par nos efforts. Ça pourrait être les 7 points pour devenir semblable à Christ. Voilà, et après vous les suivez, et puis une fois que vous l'avez fait, c'est bon, jackpot, vous êtes prêts pour aller au ciel. Ça pourrait être les 4 clés pour avoir une vie sainte. Apparemment, quand on fait des articles sur Internet, il faut mettre un chiffre. Comme ça, les gens, ils ont plus envie de lire. Si vous ne savez pas ça, maintenant, vous serez vigilant. En fait, un titre avec un chiffre, c'est fait exprès pour que vous le lisiez plus que si... Parce que si on vous disait, voilà, quelques clés pour avoir une vie sainte, vous diriez, bon, ben voilà. Mais en fait, le fait de mettre 4 clés, ça vous donne un truc, il y a une espèce de truc de performance qui s'active là. Oh ouais, je vais apprendre plein de trucs. Et en fait, ça nous fait rentrer. Donc, je ne sais pas si vous saviez ça, mais en tout cas, c'est un... C'est de la manipulation qu'on peut tous utiliser un jour, hein, s'il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, les 4 clés. Ouais. Enfin, pour du temps de Jésus, avant qu'il arrive, c'était plutôt les 10 lois pour avoir une vie sainte, donc les 10 commandements, qui s'étaient transformés au fur et à mesure en les 3650 lois pour avoir une vie sainte. Pour être honnête, encore aujourd'hui, les juifs, surtout les juifs orthodoxes, ils ont je ne sais pas combien de lois. Il y a une loi sur comment il faut se laver les mains, c'est des centaines et des centaines. Et en fait, chaque rabbin en rajoute, parce que c'est comme nous, les ministres, ils rajoutent des lois juste pour dire qu'ils étaient là un jour. Mais les rabbins aussi, parce qu'il faut qu'ils mettent leurs pattes. Nous, quand on parle sur le fait d'être transformé, on ne parle pas de tout ça. On parle en fait de quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus basique, mais qui en fait est tellement plus puissant. Et ça revient à ce que disait David tout à l'heure, c'est de remettre sa vie entre les mains de Dieu et de croire qu'il va le faire. Et d'avoir la foi que c'est lui qui va le faire. Et vous savez, même en tant que chrétien, on peut avoir à un moment donné une révélation de Jésus et quand même penser que c'est par nos efforts qu'on va être sauvé. Et quand même penser que c'est le fait de vraiment s'efforcer à être quelqu'un de bien qui va faire qu'à la fin, on sera quand même digne de Jésus ou pas. Et on peut prendre toutes les révélations de la grâce et les mettre à l'intérieur de notre système intérieur qui peut être basé sur la performance, la culpabilité, des choses comme ça. Et c'est ça qu'en fait, qu'on appelle être transformé. C'est être transformé, c'est grandir avec Dieu, le laisser vraiment venir à l'intérieur de nous, pas pour des choses qu'on va faire, mais des choses qu'on va réaliser à l'intérieur qui vont changer nos façons de voir, qui vont faire que l'expérience de la grâce qu'on a vécue un jour, dans notre vie quotidienne, dans notre vie familiale, dans notre vie relationnelle, dans notre vie professionnelle, ça va couler de plus en plus et ce ne sera pas dans une petite boîte de quand je vis un moment fort avec Dieu. Et c'est pour tout le temps en fait. Pour parler de ça, je voudrais parler de l'histoire de Pierre. Qui a déjà entendu parler de Pierre dans la Bible? Voilà. Qui a déjà vu The Chosen? The Chosen? Sorry for the accent. Et ben dans The Chosen, vous avez ça fait ça toujours les trucs d'accent, voilà. Ça fait mal dans l'autre sens aussi, je comprends. Il y a dans ce film, je ne vais plus oser le dire maintenant, cette série, eh bien, ils ont choisi de montrer Pierre d'une façon, alors comme quelqu'un qui est un peu un roublard au début, il est là, il triche, il fait des combats, tout ça pour gagner sa vie, il parie pour gagner de l'argent, il ment à sa femme, enfin toutes sortes de choses. Mais Pierre, à la base, c'est quelqu'un qui avait connu une vie de loi, les 365 lois pour être sauvé. Lui, il savait de quoi il s'agissait, parce que il a grandi en Israël, du temps où justement il y avait toutes ces lois qui étaient très importantes dans la culture. On ne sait pas exactement s'il était à ce point quelqu'un de voleur, de manipulateur et tout ça. Ce qu'on peut voir dans la série, c'est que ils ont fait que en fait c'est quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui au fur et à mesure il est à l'intérieur de ses systèmes et plus il est en train de magouiller, plus il essaye de s'en sortir pour éviter d'un jour que ce soit mis à la lumière. Et en fait, il s'embourbe tout seul. Et je trouve que c'est une belle image de notre vie, que des fois on s'embourbe tout seul dans nos problèmes, alors qu'à la base, on n'est pas si méchant que ça. Mais il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans des graves problèmes pour, au départ, s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Bref, Pierre, qu'il soit autant un menteur ou un parieur et quelqu'un qui faisait sa vie vraiment pour s'en sortir au détriment des autres personnes, que ce qu'ils ont montré dans cette série, ou pas, la Bible nous parle de Pierre de pas mal de façons, et j'ai envie de regarder avec vous vraiment pour voir comment il est passé de son caractère à lui, de ce qui était ses possibilités à lui, son caractère avec ses bonnes choses et ses mauvaises choses. Et après, il a été rempli du Saint-Esprit et comment ça a changé sa vie. Donc, on va commencer par Matthieu 16. Est-ce que vous avez tous une appli Bible sur votre téléphone ?
Oui.
Si vous n'avez pas une Bible papier comme Léon, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, je vous encourage à tous télécharger une application Bible qui vous servira. Et sinon... Donc moi j'aime bien qu'on prenne le texte et que vous le... J'aime bien qu'on prenne le texte et qu'on le lise ensemble parce que comme ça au moins à un moment donné de cette semaine vous aurez lu la Bible. Et moi aussi. Quoi ? Dans Matthieu 16. Alors... Donc Pierre, il a cheminé avec Jésus pendant un moment, et à un moment donné, Jésus leur demande « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Et les gens, et puis ils répondent, verset 14, ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, les uns ont dit qu'il est Jean-Baptiste, ce qui est assez étonnant parce que Jean-Baptiste, il était contemporain avec Jésus, mais bon. Voilà comment les gens peuvent interpréter. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux pour savoir forcément. Donc, bref, les gens savaient que c'était un prophète, Jésus. Les gens savaient que c'était un rabbi, un maître qui parlait de la part de Dieu, qui connaissait les Écritures et qui avait avec lui une troupe de disciples. Mais ça se faisait, ça, dans le temps. Ce n'est pas une nouveauté qu'il y ait un rabbi qui se promène avec des disciples et qui enseigne. Ça se faisait beaucoup. Donc, il fallait vraiment une révélation de Dieu pour que Pierre comprenne dans son esprit que Jésus, il n'était pas juste un prophète comme ça. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'est la révélation incroyable que nous propose la foi en Jésus, le christianisme, de croire que Jésus, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, ça veut dire le Messie, ça veut dire le Sauveur. Donc pour l'époque, ça, dans leur tête, ça voulait dire qu'il allait les libérer des Romains, etc., etc. Donc après, il y avait tout ce que eux y mettaient comme pensée derrière ça. Mais la révélation, c'était « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pour un juif, de penser que Dieu a un fils, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose vraiment, une révélation profonde. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est pas à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans tes pensées que tu as eu ça, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Et ensuite, qu'est-ce que fait Jésus? Moi j'aime beaucoup ce passage. À la réponse du fait que Pierre a déclaré qui est Jésus, Jésus, il déclare sur Pierre, c'est comme si Johnson, il me dit, bah, Camille, voilà, t'es une fille super, et moi, je lui dis, mais toi, t'es un gars génial, et tu vas accomplir des choses magnifiques dans ta vie. En fait, Jésus, il prend la brèche comme ça, et puis il dévoile à Pierre tout ce qu'il va faire dans sa vie. Enfin, tout ce qu'il va faire, pas les petites choses, mais les choses énormes. Donc, bon, les catholiques se sont servis de ce passage pour dire que Pierre, c'est le premier des papes, parce qu'il dit, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc pour eux, c'est le premier de l'église catholique, c'est le premier pape. Mais nous, on ne va pas jusque-là, on ne dit pas que Pierre, c'était un pape, c'était un apôtre, ce qui est déjà extraordinaire. Mais voilà, au milieu des autres apôtres, on ne l'érige pas plus que l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean et tout ça. Mais en tout cas, Jésus, il vient et il déclare à Pierre qui il est. Pas qu'il est genre, bah, en fait, t'es en train tout le temps de vouloir te montrer, tu parles plus fort que les autres parce que voilà. Toutes les choses un peu que Pierre avait dans son caractère. Hein. Pierre, il avait dans son caractère qu'il était toujours le plus impétueux, celui qui parle à la place des autres, donc avec des belles choses. Mais quand on est extraverti comme moi, on sait que c'était pas toujours si bien, en fait. De temps en temps, c'est génial et de temps en temps, on est à l'intérieur de nous, on dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et là, Jésus, il ne dit pas à Pierre ce que tout le monde voit de lui et ce que tout le monde pourrait penser. Et puis Pierre, c'était un pêcheur dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il pêchait des poissons pour vivre. Et en plus, il était pêcheur de nature, comme tous les autres humains. Mais il était pas instruit. Donc de dire de lui qu'il allait bâtir une église, qu'il allait vraiment avoir une autorité spirituelle, c'est ce que Jésus est en train de dire sur lui, c'est beaucoup plus élevé que tout ce que Pierre avait pensé sur lui. Et la première chose que je veux dire ce soir, qui n'est pas forcément en rapport avec le thème, mais je veux le dire, c'est qu'il y a certains au milieu de vous, vous avez besoin de déclarer que Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, pour pouvoir recevoir en retour ce que Jésus va dire sur vous. C'est comme si des fois on attend que les autres autour de nous disent qui on est, ou on attend de nous-mêmes trouver qui on est profondément. Mais en fait, c'est Jésus qui va dire la chose la plus extraordinaire, qui va avoir le point de vue le plus global, le potentiel le plus illimité sur nos vies, c'est lui qui a ce regard-là. Et si Pierre, là, il n'avait pas eu cette parole-là, ben on ne sait pas, peut-être il n'aurait pas révélé, il n'aurait pas marché dans certaines choses. En tout cas, je suis sûre que cette parole de Jésus, c'était son rabbi, il aurait tout fait pour lui. Cette parole d'encouragement, ça l'a bâti à l'intérieur. De dire, bah, wow, moi je ne me considère pas comme ça, moi je suis quelqu'un qui est un menteur, qui essaye toujours d'entourlouper. Et là, on me dit que je suis quelqu'un sur lequel Jésus va bâtir son église. Et bien ça, on a besoin les uns et les autres d'entendre ce que Dieu dit de nous. Et ça passe par le fait d'ouvrir la porte, en fait, et de dire « Je reconnais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et une fois qu'on a déclaré la révélation, aussi petite, peut-être on n'a pas une grande révélation encore de qui est Jésus, mais dites ce que vous avez. Et après, Jésus, il sait prendre les bonnes occasions. Vous dites à Jésus qui il est pour vous, et lui, il va vous parler, il va parler à votre cœur. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que Pierre, juste après, alors il a eu une super révélation de Jésus là maintenant, mais juste après, donc trois versets après, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc il commence à expliquer doucement que, en fait, il n'est pas là pour devenir un chef d'armée et mettre les Romains dehors. Parce que les Juifs attendaient ça. Donc là, Jésus dit, ok, vous pensez, maintenant vous avez compris que je suis le Christ, je vais vous expliquer en quoi je suis le Christ, mais que ça ne correspond pas à vos pensées. Mais Pierre, il n'est tellement pas prêt à recevoir cette révélation. Il a une révélation, mais il l'a mise à l'intérieur de son cadre. Alors, ok, tu es le Christ, ça veut dire tu vas devenir un chef d'armée et on va être libre des Romains. Et Jésus, quand il dit, je vais souffrir sur la croix, je vais mourir et je vais ressusciter, ça cadre pas du tout avec ce que Pierre croit. Et du coup, il dit à Dieu, non, ça va pas t'arriver. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Genre, non, moi, on va te protéger, on va faire en sorte que ça se passe pas. Et là, Jésus a été obligé de le reprendre, mais alors vraiment sévèrement, parce que c'est de là que ça vient l'expression « arrière de moi, Satan ». Que je pense même les non-croyants connaissent. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et là, on voit que dans les pensées de Dieu, il y a Satan qui s'y mise comme ça. Donc, on a une révélation de Jésus, mais elle est là, et elle a de la valeur, et Jésus s'en sert, mais elle est limitée parce qu'en fait, on a plein de raisonnements et de façons de voir qui font qu'en fait, ce que Jésus veut nous dire en plus, eh ben, ça ne rentre pas parce qu'on a notre vision de comment ça doit se passer. Donc là, voilà, super, Pierre, il a vécu un truc super, il a vécu un truc nul, il s'est fait reprendre devant... Parce que là, il y a marqué, mais Jésus se retournant dit à Pierre. Mais en fait, dans un autre évangile, il est marqué, Jésus s'est retourné vers les autres et fait genre, toi, t'es arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, ne me prends pas à part pour me dire une chose pareille, mais il a repris, je pense, ça devait être un peu devant tout le monde. Donc, bref. Donc, Pierre, c'est cette personne avec un caractère fougueux, on le voit dans d'autres moments. Un caractère très extraverti, qui passe un peu devant tout le monde, pas méchamment, et mais quand même, qui a ses limites. Il y a des choses qu'il comprend, il y a des choses qu'il ne comprend rien. Et il y a plein de fois où les disciples ils comprennent rien du tout. Même au bout de deux fois où Jésus il a multiplié des pains, quand il faut du pain, les disciples sont en PLS. Sont là, il faut du pain, il va nous gronder, il n'y a pas de pain. Je dis, mais Jésus, il a multiplié pour 4000 personnes, et vous êtes là à vous dire que vous n'avez pas de pain. Donc il leur fallait du temps pour comprendre. Et ils étaient tous comme ça, et on n'aurait pas été mieux. Mais il s'est passé quelque chose pour Pierre. Et ce qui s'est passé pour Pierre, c'est dans Acte 2. Ah non, parce que la dernière chose qu'il fait, Pierre, qui est magnifique, c'est quand même de renier Jésus. Donc pour quelqu'un sur qui Jésus doit s'appuyer pour bâtir son église, juste avant la croix, Jésus, il est dans son pire moment. Alors Pierre, il lui a dit « Non, moi je vais être là pour toi, je te protégerai et tout ». Et au moment où Jésus, on pourrait dire, il a le plus besoin, mais humainement, dans l'idée qu'on aurait d'un ami qui est en train de se faire crucifier, on voudrait pouvoir être là pour lui, tu vois. Et Pierre, il a peur du regard des gens. Ça ne nous arrive jamais.
Jamais.
Jamais. Le regard des gens, on est complètement affranchi de ça, nous, on s'en fiche. On vit pas du tout en fonction du regard des gens. Voilà, donc Pierre était comme nous, et il a eu très peur, parce qu'il était entouré de juifs qui étaient en train de dire « on va tous crucifier Jésus ». Et ils ont regardé Pierre et ont dit « mais t'étais avec Jésus, toi ?» Et Pierre, il a eu très peur d'être la quatrième personne en fait. Ils ont mis trois croix, ils ont dit ils vont en mettre un autre en fait. Et là, toute sa bonne volonté, aussi même tout son amour pour Jésus, et c'est parti dans la crainte, dans une peur légitime quand même, on doit dire. mais quand même qui mettait en fait comme si bah, tout ce qu'il avait dit avant c'était que des paroles. Et après ça, ben Pierre, il a eu très honte. Et il avait beaucoup de mal à sentir l'amour de Jésus. Et donc ça, bon, c'est encore une autre histoire. Mais Jésus l'a aimé après être ressuscité. Il est allé le voir personnellement pour lui dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, il a pu dire « Ben oui, tu sais que je t'aime. » Et Jésus, il a insisté jusqu'à ce que ça pénètre, en fait. Que oui, il y avait une différence, mais quand même, il était là pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour Pierre ? Eh bien, on va aller dans Acte 2. Je l'ai marqué. Acte 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, il y a quelques mois, quand on a fait un thème sur l'Église, et Aude, elle a parlé d'Acte 2 comme étant le moment en fait, où il y a eu en fait, la première Église. Et elle s'est servie de ce moment-là pour parler de comment, avec l'effusion du Saint-Esprit, ça a été la première Église. Et moi, je voudrais reparler de ça, pas pour radoter, mais pour le voir d'une autre façon, plus personnelle. Autant ça fonde l'Église, et c'est la puissance du Saint-Esprit qui fonde l'Église, mais aussi c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme. Donc dans Acte 2, je ne vais pas tout lire parce que c'est long, mais le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Je vais le raconter, ce sera mieux. Et tout à coup, il y a eu dans le ciel et dans la pièce un vent impétueux, ça a rempli, il y avait du vent, il y avait comme du tonnerre. Et il y a eu des langues de feu, comme des... À l'époque, ils ont dit des langues de feu. Moi, je dirais peut-être que c'était comme des faisceaux. Aujourd'hui, dans la science-fiction, on dirait, voilà, c'est, c'est un faisceau de lumière. On ne sait pas trop exactement à quoi ça ressemblait. Des langues de feu surnaturelles, en tout cas, qui sont descendues sur les uns et les autres. Et après, ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire effusion, ça veut dire répandre. S'il y a une effusion d'émotions, ça veut dire vous répandez dans vos émotions. c'est un mot qu'on utilise très peu, mais qu'on utilise là pour le Saint-Esprit, parce qu'il y a des prophéties en fait, dans l'Ancien Testament où Dieu disait « Voici, je répandrai mon esprit sur toute chair ». C'était vraiment prophétisé avant qu'il y aurait un moment comme ça, où tout le monde serait rempli du Saint-Esprit. Pas juste le prophète Élie, pas juste le prophète Samuel, où c'était une ou deux personnes dans un même temps qui étaient touchées par le Saint-Esprit. Et là, ça marque un moment spécial. Le moment où, en fait, Jésus étant remonté au ciel, il a été rempli, Dieu l'a rempli lui-même du Saint-Esprit, et lui, il l'a envoyé sur tous les croyants. Et après, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'ils parlent tous dans des langues qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, parce que je ne pense pas que Pierre connaissait le Mésopotamien. Voilà, parce qu'il y a des gens du Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce. C'était des gens sans instruction. Il y en a certains qui avaient de l'instruction, mais il y en avait d'autres non. Et donc eux-mêmes, ils ne comprenaient pas les langues dans lesquelles ils parlaient, et ils commencent à parler ces langues. Donc il fallait que ce soit quand même un joyeux bazar, quoi. Parce que si tout à coup Johnson commence à me parler dans une langue que je ne connais pas, bah, je ne vais pas le laisser faire. À un moment donné, je vais dire mais je ne comprends rien en fait. Donc ça veut dire qu'il y avait, je ne sais pas, une espèce de bizarreté dans l'ambiance. À cause du fait que quand le Saint-Esprit est venu, ça remplit quelque chose, ça fait quelque chose que personne ne comprend. Et donc ils ont commencé à parler toutes ces langues, et des gens qui étaient là, dehors, ils étaient dans une chambre, dans une pièce, et ils ont commencé à sortir, et les gens les ont entendus parler comme ça. Ils ont dit, ils sont ivres. L'expression, c'est, ils sont pleins de vin doux, genre du vin bien sucré, là, qui te tape, là. Donc, j'imagine qu'ils devaient pas juste parler dans des langues étonnantes, parce qu'ils auraient dit juste, ils sont très instruits, mais ils devaient tituber, balbutier, avoir des gestes étonnants, quoi. Donc, de temps en temps, dans la présence du Seigneur, il peut se passer des choses comme ça. On peut rire, on peut tituber. C'est pas tous les matins au petit-déj, mais ça peut se passer. Et il y en a qui cherchent que ce soit tous les matins au petit-déj parce qu'ils sont accros à ce vin doux et on peut pas leur en vouloir. Toute référence à quelqu'un ici présent serait... Et là, ce qui se passe, c'est que Pierre, qui était dans la honte, mais qui avait renié Jésus et qui avait eu très peur et qui ne voulait pas parler de sa foi devant tout le monde parce qu'il avait peur d'être crucifié, d'être tué à son tour, et bien en fait, par la puissance du Saint-Esprit, il a pu devenir la personne que Jésus avait dit qu'il était. Quand il a dit « Jésus, voici sur toi, je vais bâtir mon église », Pierre, il a dû dire « il n'y a rien qui va depuis qu'il m'a dit ça. J'ai fait que des boulettes. Il n'y a rien qui va. Je ne pourrai jamais être le premier disciple de Jésus, celui qui a montré qu'il l'aimait, celui qui, s'il va se passer un truc, on va avoir confiance en moi. » il avait sûrement, ça avait démoli sa confiance en lui, l'idée qu'il avait de lui-même, ras des pâquerettes. Mais la puissance du Saint-Esprit qui est venue, ça a rempli Pierre. Et il a été le premier à donner un message qui a prêché l'Évangile. Là, il a donné un message qui est trop long parce que ça reprend tout. Il y a l'Ancien Testament, parce qu'il parlait à des Juifs aussi, donc il était en train de dire « Voilà, le prophète Joël avait dit ça, 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 ça. » Et donc, il explique.
Acte 3.
Déjà, oui, acte 2, hein, c'est déjà acte 2. Et à la fin, les gens ont eu le cœur très touché. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ils étaient peut-être une petite... Je ne sais pas combien ils étaient. Moins de 100, ça c'est sûr. Ils étaient moins de 100. Ils étaient peut-être 30. Et ils sont devenus 3000. Comme ça, en une prédication. Donc nous, on n'en est pas là. Hein. Donc Pierre, quand même... Il a montré là, il a marché dans les œuvres que Jésus avait, ça s'appelle prophétiser. Jésus avait dit à Pierre qui il est vraiment, dans le fond du fond de son esprit, là où Dieu a écrit quelque chose qui dit « voilà comment tu es ». Et Jésus, il a une parole pour chacun d'entre nous ici, de dire « voilà, je t'ai créé pour amener ça de moi sur la terre. Je t'ai créé pour faire briller ça. Je t'ai créé pour te donner telle influence ». Et croyez-moi, c'est vraiment une joie de rentrer à l'intérieur des œuvres que Dieu a prévues pour nous. Moi, je peux dire que j'ai laissé Dieu travailler ma vie pour devenir qui je suis aujourd'hui. Je l'ai laissé me parler et j'ai travaillé. Le seul truc difficile, c'est d'apprendre à le croire, en fait. Parce qu'en fait, il dit des choses sur nous qui, sur le coup, nous semblent impossibles parce que ça touche toutes nos limitations. La première fois que je suis venue à Toulouse, première fois que quelqu'un a prié pour moi, il dit « Oh, je vois que Dieu veut vraiment t'élargir. » Je dis « Ah, d'accord, ouais, je vais être élargie dans ma pensée, je vais être élargie dans ma compréhension. » Et puis j'ai fait 3 mois de formation ici, et puis on repartait chez nous à Nice. Et puis je dis « Bah voilà, j'ai passé 3 mois à être bien élargie là. » Dernière prière de quelqu'un pour moi pendant ces 3 mois avant que je rentre à Nice. « Oh là là, je crois que Dieu il veut vraiment t'élargir là. » c'est bon quoi maintenant, j'ai compris quoi. J'ai compris que je pensais trop étriqué. Je pensais tout petit. Je pensais qui je suis aujourd'hui. C'était pareil, mais je pensais une zone d'influence minus. Genre moi, si j'étais une maman chez moi et que j'ai influencé mes 3 voisins, et puis de temps en temps j'allais voir quelqu'un qui était malade et tout ça, ça m'allait très bien en fait. J'avais une pensée de moi qui était... petite. Je ne pensais pas du tout qu'un jour je pourrais être pasteur, que je suis aujourd'hui, et parler à une trentaine de personnes, mais aussi à 200 personnes ou à plus. Et j'avais aucune idée de pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Moi, je pensais que juste aller ramener un gâteau à quelqu'un qui est malade, c'était une bonne façon d'aimer la personne. Et c'est une bonne façon d'aimer la personne. Je le fais encore. Mais j'avais aucune idée qu'à l'intérieur de moi, ce que Dieu avait mis, ça pouvait vous toucher. Ça pouvait être bon pour vous, ça pouvait influencer cette ville de Toulouse. Déjà, je vivais dans un patelin à côté de Nice, où j'aimais bien avoir des poules, moi. Enfin, je n'étais pas dans une vision citadine, là, d'une vie hyper remplie et tout ça. Et j'ai eu besoin d'être beaucoup transformée par Dieu, dans ma vision de moi-même. Et ce n'est pas dur dans le sens, si, c'est un peu dur parce que ce qu'on pense de nous, c'est notre sécurité. Quelque part, je pense que je ne suis pas faite pour influencer beaucoup de monde. À la fois, Bon, je trouve ça un peu nul parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une influence sur plus de gens et puis ben, je pourrais aimer être ce genre de personne. Mais en fait, je suis en sécurité à l'intérieur de ma petitesse. Et pour plein de choses comme ça. Et du coup, c'est abandonner ses sécurités. Et comme disait David, c'est quelque chose d'un peu violent de dire à Dieu, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te fais confiance. Parce qu'à l'intérieur de nous, vous savez qu'on n'aime pas le changement, en fait. Il y a des études qui montrent que pourquoi, en fait, ça prend du temps de changer une société, ça prend du temps. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, on préfère ne pas changer et rester dans un truc nul que de mettre une violence pour sortir vraiment de ce cadre nul. Et du coup, en fait, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que c'est lui qui le fait. C'est lui le côté violent. Parce qu'en fait, quand il vient nous toucher, il y a ce côté un peu ivre qui fait que, alors c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est lui qui le fait. Ce côté-là un peu fort qui nous sort de nos zones de confort, c'est lui qui le fait. Et puis autour de nous, on est là aussi les uns les autres pour dire, mais crois-y à ce que Dieu t'a dit. Crois-le parce que c'est possible. Et d'appuyer vraiment ce que le Seigneur dit, parce que des fois on l'entend et puis deux secondes après on l'a oublié et on est de nouveau comme Pierre dans nos pensées. Donc oui, t'es le Christ, mais ça veut dire que tu vas mettre les Romains dehors. Donc tu veux que je sois influente, donc je vais partir et je vais devenir quelqu'un. Et puis en fait, on se fait une idée de qui on pourrait être. Moi je voulais être médecin et partir en Afrique. C'était bien aussi. Mais en fait, parce que quand j'ai eu cette pensée-là, pour moi, aider les gens, ça voulait dire être en Afrique. En France, il n'y a personne à aider, c'est bien connu. Mais en tout cas, chaque fois que Dieu nous dit un truc, c'est comme si on le prend et puis on le met à l'intérieur de notre propre système. Mais ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il vient à l'intérieur de nous. Il nous met en contact avec Dieu, qui dit qui on est vraiment, et il nous donne la puissance de le faire. Parce que Pierre, il savait ce qu'il était censé faire, mais il était incapable de le faire par ses propres forces. Il était incapable de mener à bien la mission de bâtir l'Église en reniant Jésus 3 fois, quoi. Il était incapable. Et bien nous, c'est pareil. Si ce n'est pas avec le Saint-Esprit, on est incapable de mener à bien notre mission de vie. Et on va aller peut-être on va faire des choses bien, mais au fond de nous, il y aura toujours un côté où il y aura un manque. Parce que ce que Dieu dit de nous, c'est vraiment ce qui nous correspond. C'est, en anglais, c'est côté fit, ça te va. Ça te va comme un gant, ça te correspond vraiment.
Ça te ressemble.
Exactement, ça te ressemble. Tu es faite pour ça. Il y aura de la joie dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des combats et des trucs challengeants, mais ça te ressemble et tu seras même heureux qu'il y ait ce côté un peu challengeant parce qu'une fois que c'est fini, tu te sens vivant, tu te sens rempli. Tu sens que c'était vrai, que tu es à la bonne place et que ça valait la peine de se battre. Et ce que je vais vous proposer ce soir, c'est qu'on demande au Seigneur ensemble qu'il nous remplisse de la puissance de son esprit. Déjà, pour ceux qui le veulent, je vous propose de prier avec moi en répétant, juste de dire à Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et de s'attendre qu'il va nous parler, qu'il va nous remplir, qu'il va parler sur nos vies, sur notre identité. Et puis on va aussi s'attendre au Seigneur et prier pour qu'il nous remplisse de la puissance de son amour, la puissance du Saint-Esprit, et que ce soit lui qui le fasse, que ce soit lui qui vienne mettre ce feu sur qui on est, pour qu'on puisse être vraiment les personnes que lui dit qu'on est, parce que c'est génial ce qu'il dit qu'on est. Chacun d'entre vous, vous avez un héritage, vous avez quelque chose à aller attraper qui est vraiment fait pour vous. Est-ce que ceux qui veulent faire ça, est-ce que vous voulez vous lever? Comme ça, on est ensemble et je me sens qu'on est ensemble. Mais elle a pas... J'adore. T'es géniale, Cléna. Très bientôt, un jour, tu seras là.
Oh.
On va commencer par vraiment confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Mais il le sait.
Oui, ça c'est vrai, Cléna. C'est très pertinent. En fait, c'est quand ça sort de nous. C'est vraiment un acte de témoignage qui permet que ça fasse une percée. Le témoignage, c'est quelque chose d'important. En fait, c'est pas pour Dieu, c'est aussi par rapport aux choses spirituelles qui sont autour de nous, qui ont besoin d'entendre de notre part, que vraiment on y croit. Alors Jésus, merci parce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci parce que tu as une parole pour chacun ce soir. Et nous croyons que c'est en toi qu'est la vie, la vraie vie qui nous correspond. Amen.
Amen.
Oh Jésus, merci pour ta présence ici. Merci Saint-Esprit pour ta présence ici. Je veux vraiment te demander, Seigneur, que tu répandes ton Saint-Esprit. De la même façon qu'il y a eu à la Pentecôte, ton Saint-Esprit qui a transformé Pierre, qui a fait de lui l'homme qu'il était vraiment profondément. Tu l'as rendu, tu lui as donné la force d'être vraiment qui il était. Tu as révélé qui il était. Tu l'as transformé de l'intérieur, au-delà de ses limitations, au-delà de ses pensées sur lui-même et de ses échecs passés aussi. Tu es venu tout balayer parce que tu lui as donné une puissance en toi. Merci Saint-Esprit pour la puissance de vie que tu es.
Amen.
Nous demandons Seigneur que tu viennes répandre sur les uns et les autres la puissance de ton esprit. Merci Jésus. Un des signes de la puissance du Saint-Esprit qui a été répandue, c'est le parler en langue. Et certains, vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit dans le sens qu'il vit vraiment en vous. Vous avez de la révélation, vous avez de la compréhension des choses de Dieu, puis vous n'avez pas à se parler en langue. Je vous encourage à ouvrir la bouche et à faire confiance. C'est vrai que ça passe au-delà de notre raison. Et en France, on est beaucoup sur la raison, ça nous bloque beaucoup. Mais il faut croire simplement comme des enfants et faire et être juste dans sa présence. Alors ouvrons nos bouches et parlons en langue et lui, il va faire ce qu'il veut. Et Seigneur, merci parce que tu vas te révéler aux uns et aux autres. Merci pour ta puissance de vie qui est révélée au milieu de nous. Merci Jésus pour les destinées qui sont déverrouillées ce soir parce que tu parles à plusieurs sur leur destinée. Tu parles sur eux, tu dis c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais le faire. Si tu me laisses ta vie, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais te délivrer de tout ce contre quoi tu te bats. Toutes les limitations, les choses qui te semblent tes faiblesses, ton caractère, tes efforts, mais aussi tous les traumas que tu as vécu, les choses difficiles, c'est le Seigneur qui va faire. Il va faire avec toi, il va te guérir et il va t'amener plus loin. Ah, merci Saint-Esprit pour ta puissance de vie. Merci Saint-Esprit pour ta puissance de vie. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous transforme. S'il y en a quelques-uns, vous avez vraiment soif de vivre cette rencontre avec Dieu par le Saint-Esprit, que vous dites, moi j'ai jamais connu ça, c'est ce fait que le Saint-Esprit vienne en moi et parle sur qui je suis, mais aussi me remplisse complètement. Venez et puis on va prier pour vous. On veut juste vous bénir et puis dire qu'on est avec vous pour dire oui, ça va se passer, pour être avec vous, prier avec vous. Merci Seigneur. Je vous encourage vraiment, si vous avez soif, mais ce soir on veut être là pour vous. Si vous dites, moi ça me donne envie, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais j'ai envie de faire ce pas. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux que ce que je suis profondément, ça vienne à la surface, ça soit rempli de la puissance de Dieu. Je veux que mes limitations, elles explosent parce que Seigneur, tu es plus puissant que toutes mes limitations. Alors Seigneur, merci de venir toucher les uns et les autres ce soir. Ça, yananana.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur eglise-la-maison.fr.